Et sur Fréquence Mistral, il est l'heure de retrouver notre invité dans cette matinale. Aujourd'hui, c'est Claude Becquet. Bonjour Claude.
Bonjour.
C'est la 6e édition du Festival d'Orgue de Barbarie qui a lieu ce week-end, le 27 et 28. Alors, quelle nouveauté par rapport à la précédente édition ?
La nouveauté, on a plus de monde. On a encore plus de tourneurs, encore plus d'orgues. Il y aura 27 tourneurs, une exposition de musique mécanique et ça promet d'être très très bien.
Et toujours ces orgues disséminés un petit peu partout dans le village.
Voilà, c'est ça.
C'est la tradition.
La tradition, ils sont en général deux par deux, parce qu'autrement chanter toute une après-midi pendant 4 ou 5 heures, c'est un peu difficile. Et ce qui est très bien, c'est que chaque orgue a sa particularité. Chaque tourneur a son répertoire et sa façon d'être. Et ça, c'est vraiment très bien.
Mais comme tout musicien, comme tout artiste, il a sa patine, comme on dit.
Voilà.
Précise, comme quoi on peut reconnaître un tourneur d'orgue de Barbarie ou un musicien, guitariste, que vous voulez. Quand on a un minimum de talent, on reconnaît l'artiste.
On reconnaît la voix, on reconnaît la façon de tourner. Hein, parce que même si... Sans avoir appris le solfège, sans être un vrai musicien comme un guitariste, comme un pianiste, on peut être tourneur, il y a quand même un petit savoir-faire et surtout une bonne oreille.
Eh oui, parce que la tonalité change selon le rythme qu'on donne à la manivelle.
C'est le rythme qui va changer. Le rythme va changer. Les cartons, ce qu'on appelle des cartons, hein, c'est souvent comme ça, c'est des partitions, ce sont ces cartons qui sont... perforés, c'est eux qui vont donner le rythme. Plus les trous sont petits, plus la note est rapide. Et le rythme est toujours à peu près le même. On doit tourner à peu près 4 mètres minutes.
Vous entraînez à être régulier comme un métronome comme ça ?
Oui, on s'entraîne. C'est obligatoire. Et puis, il faut connaître le carton pour pouvoir chanter dessus.
Mais oui, alors vous chantez. Mais la personne qui tourne et la personne qui est au chant n'est pas forcément la même. Et là, comment vous faites pour vous caler ?
Alors, quand on est deux, j'allais dire un couple, on s'entraîne obligatoirement. Après, il faut avoir une bonne oreille. Et puis si on se trompe un peu, c'est pas grave.
Là, il n'y a rien de grave.
Non, c'est pas grave.
Du moment que vous vous amusez.
Exactement.
Et que vous faites plaisir aux personnes qui viennent vous voir et vous écouter, surtout, quoi.
Je dis souvent, quand on est tourneur de manivelle, on n'est pas des chanteurs, on ne va pas à Bercy, on ne va pas au parc de France. Hein. On est là pour offrir de la joie et offrir du bonheur et faire chanter les autres. Mais dans le bon terme, bien sûr, faire chanter les autres.
Et cette gouaille dans le chant, vous la cultivez de quelle façon ? Parce qu'il y a une certaine façon de chanter quand on utilise un orgue de Barbarie.
Eh oui, c'est du chant de rue. Donc... Alors, comment on fait pour chanter ? On n'est pas tous des chanteurs. Il y a des gens qui chantent très très bien, il y a des gens qui chantent moins bien, qui ont des voix fortes, des voix faibles. Et ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a du public, que les gens viennent auprès de nous et chantent avec nous. C'est surtout ça qui est important.
Ça ne pose pas de problème quand une personne a une voix un petit peu plus fluette par rapport à la dynamique d'un orgue de Barbarie ?
Ça pourrait poser des problèmes, mais en fin de compte, ça passe quand même. Ce qui est important, c'est que on n'est jamais sonorisé. C'est pas le but. Le but, c'est justement de faire approcher les personnes et de créer un lien. On rencontre des personnes très différentes quand on est sur la rue et des personnes avec qui on n'aurait jamais parlé. Et ça, c'est vraiment bien. Surtout, on en a besoin maintenant. C'est pas toujours rose la vie, alors quand on peut discuter avec les gens, rire, sourire, c'est vraiment essentiel. Enfin, pour moi, ça l'est.
Oui, parce que vous ne faites pas que chanter ni jouer. Vous discutez avec les gens qui viennent vous voir. Vous prenez des temps de pause réguliers ou c'est aléatoire ?
C'est aléatoire. Ça dépend des gens qu'on rencontre. Quelquefois, ils demandent des explications. C'est quoi un orgue ? Comment ça fonctionne ? Ou alors, ils nous racontent des souvenirs. « Oh, moi, je me souviens, cette chanson-là, c'est ma grand-mère qui l'a chantée. » Ou alors, « De mon temps, oui, on avait des chanteurs de rue comme ça, et puis on lançait des pièces. » Enfin, il y a tout un patrimoine, une tradition qui est dans nos mémoires et qui reperce, qui reviennent avec, avec les orques de barbarie.
Vous parliez de mécanique, donc il y a le fameux papier à musique qui est calé dedans. Et vous, le papier à musique, vous le changez régulièrement parce que ça a une durée d'usure, je suppose, durée
c'est,
de vie.
Oui, c'est relativement solide. Hein. C'est du carton, hein, pour les orgues à carton, parce qu'il y en a d'autres. C'est relativement solide. Le problème pour nous, c'est l'eau. Il ne faut pas que ça soit mouillé. Un peu le vent si ça se déchire, mais si ça se déchire, on peut les recoller, etc. Donc moi, j'ai des cartons qui ont 40 ans et ça fonctionne toujours.
Et pour les conserver
ben moi, ils sont sur une étagère dans la salle à manger.
Simplement.
Voilà, tout simplement.
Donc, il y a plusieurs types d'orgues de barbarie, ce que vous venez de dire. Quel est le plus usité actuellement, en 2019?
2019, je dirais que c'est l'orgue pneumatique, donc à flûte, et le 27 notes. Ah. Ça, c'est le modèle standard. Mais il n'y a pas que celui-là. C'est-à-dire que dans les pneumatiques à flûte, il y a du 29 notes, il y a du 20 notes, du 22 notes, du 24. Mais le standard, c'est 27.
Mais quelle est la différence entre... Il y a le nombre de notes, oui, mais pour l'oreille d'une personne qui ne connaît pas.
Ah, je dirais que si on est sur un 27 et un 29... Bon, le 29 est plus riche, on n'entend pas tellement la différence. Maintenant, si on est sur un 20 notes, oui, la mélodie est moins riche. Alors, ceux qui font les cartons, on les appelle des noteurs, hein, comme les notes. Et moi, j'ai un grand respect pour ces personnes-là. Parce que pour être un noteur, il faut être un bon musicien. Il faut être un très bon arrangeur. Parce que quelquefois, suivant le nombre de notes... les personnes ne l'entendent pas, ceux qui écoutent, mais il n'y a que 40% de la mélodie de départ qui est inscrite.
Et pour un bon auteur, il faut un bon interprète.
Oui, ben ça va bien ensemble, mais bon, on peut très bien passer les cartons sans chanter, mais c'est mieux quand on chante.
Alors, vous êtes venu avec deux morceaux musicaux dans votre musette, dans votre besace. Il y a Sous le pont de Paris, avec un orgue plus ou moins traditionnel.
Oui, c'est un orgue à hanche. Là, j'ai parlé d'orgue à flûte. Un orgue à hanche, c'est fait avec des hanches. Ce sont des petites lamelles métalliques. Et on a un son qui se rapproche plus de l'accordéon et qui est peut-être dans la mémoire auditive des personnes quelque chose dont ils se souviennent le mieux. C'est un orgue plus petit, donc plus facilement transportable. Et... voilà, c'est différent de l'orgue à flûte.
Dans la mémoire du commun, entre guillemets, c'est cet orgue-là qui parle plus à mémoire.
Je pense que c'est celui-là.
Ah, donc, Sous les ponts de Paris, à Digne, c'est maintenant sur Fréquence Mistral, Digne 99.3.
Thank you.
Alors, comment appelle-t-on les joueurs d'orgue de Barbarie ? Comme, apparemment, c'est les organistes, c'est ceux, personnes qui jouent du clavier.
Et ceux qui ont un orgue de Barbarie, on s'appelle des tourneurs de manivelle.
Tout simplement.
Tout simplement, parce qu'on tourne une manivelle. Et c'est la manivelle qui va faire, qui va actionner donc les soufflets, qui va envoyer l'air dans une boîte à air, et ensuite qui va faire une dépression pour renvoyer cet air-là dans les flûtes. Par exemple.
Toujours un problème de temps, la dépression, l'humidité, le papier à musique.
Par exemple, s'il pleut, on peut pas, effectivement, on peut pas jouer. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait été avec son orgue de Barbarie, donc dans les Hautes-Alpes, dans cette commune la plus haute d'Europe.
À Briançon.
Encore au-dessus, et le fait, la pression atmosphérique faisait que l'orgue ne fonctionnait pas.
Pour l'air, oui.
Il y avait trop de pression, et ça ne fonctionnait plus.
Et en retournant l'orgue de Barbarie, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire.
La tête en bas, non, c'est la tête pour l'hémisphère en bas, sud, non.
Non, ça va pas.
Mais alors, donc, c'est mécanique, est-ce que vous avez des rudiments, si jamais il y a une panne?
J'avoue que moi, j'en ai pas.
J'en ai de rudiments, de panne.
Ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. C'est très bien pour moi. Non, il y a ceux qui fabriquent les orgues, qui s'appellent des facteurs d'orgue. Et si on a un problème avec l'orgue, on le ramène chez le facteur d'orgue. C'est son métier. C'est quand même assez complexe. C'est minutieux. Moi, je ne mettrai pas les mains dedans.
Même pour une petite maintenance, non ?
Je préfère pas.
D'accord. Et les facteurs d'orgue dans les Alpes de Haute-Provence, où on en trouve ?
Alors, dans les Alpes de Haute-Provence, il n'y en a pas. C'est dans le Vaucluse. Oui. Le plus proche, c'est dans le Vaucluse. C'est Monsieur Bougon.
Monsieur Bougon ?
Bougon, oui. Bougon Didier, qui a Pernes-les-Fontaines. Mais il n'est pas le seul en France. Hein. On a aussi Audin, on a Cotin. On a quand même plusieurs facteurs d'orgue.
Et dans les facteurs d'orgue, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. S'il y a une panne un petit peu plus précise, on change de facteur.
Alors, moi personnellement, j'ai un orgue Bougon. Donc, quand j'ai une panne, je vais chez Monsieur Bougon.
Donc, c'est lui qui les fabrique.
C'est lui qui les fabrique, mais entièrement. C'est-à-dire que même la flûte, hein, parce qu'il fabrique énormément d'orgues à flûte, il fabrique la flûte. C'est pas de l'assemblage. Ces gens-là, ce sont des artisans, mais vraiment des artisans d'art.
Dans le sens noble du terme.
Tout à fait, tout à fait.
Et vous avez pratiquement jamais de problème avec votre orgue, mais vous en avez vu combien jusqu'à présent d'orgue ?
D'orgue ? C'est le deuxième. Celui que je possède, c'est un 29 notes à transpositeur. Ça veut dire que je peux jouer dans trois tonalités.
Ah, c'est un chromatique alors.
On appelle ça transpositeur. Hein. Donc on a une tirette, et ce qui fait que je n'ai pas que 29 flûtes, j'en ai 35.
Mais vous actionnez un piston, ça me...
Voilà, et qui va faire glisser les flûtes. Donc ce qui me permet de chanter n'importe quel carton. Parce que tous les cartons ne sont pas faits à la voix de la personne. C'est fait de façon un peu plus générique. Quand on a un transpositeur, si le carton est trop bas, on peut monter la tonalité, et s'il est trop haut, on peut la baisser.
Donc là, il faut vraiment être raccord avec le chanteur quand on actionne cette manivelle, si on transpose les notes. Quoi.
C'est simplement la tonalité qui va changer. Hein. Le rythme, etc., ne change pas.
Oui, mais changer de tonalité pour quelqu'un qui chante, ce n'est pas forcément facile.
Non, mais on change la tonalité de carton par rapport à sa propre voix.
Oui, mais justement, quand vous êtes deux...
Ah, quand on est deux, ben voilà, il faut... C'est pour ça qu'on s'entraîne, pour le savoir avant.
Donc c'est votre second orgue de Barbarie.
Oui.
Et le premier, il était un petit peu plus rudimentaire.
Non, c'était le même.
Le même.
Le même, seulement il faisait 35 kilos. Donc il était un peu lourd et celui-là n'en fait que 18. C'est plus facile.
Mais c'est les essences de bois qui changent,
Non, il a compacté. Ça, c'est l'art du facteur d'orgue.
Ouais, en compactant, on change le volume.
Il est plus petit, effectivement.
Mais le volume d'air, quoi, hein, c'est pour le...
Pour la sonorité.
Oui, sonorité.
Oh, il est déjà très sonore.
Oui.
C'est vraiment des instruments de rue. C'est-à-dire que quand on répète à la maison, hein, on n'a pas des pièces qui font 100 mètres carrés, c'est un petit peu bruyant. C'est vraiment l'instrument de rue.
Et au niveau dynamique, ça représente quoi de la sonorité d'un orgue de Barbarie?
Alors, ça représente quoi? Alors, pour les orgues à flûte, on est proche de l'orgue, des grandes orgues. Bon, en étant bien sûr très modeste, hein, on reste proche de cette sonorité-là. Alors que tout à l'heure, je vous disais que les orgues à hanches, c'était du registre de l'accordéon.
Donc, pour les orgues à flûte, est-ce qu'il faut... Ça sonne moins en plein air que dans une salle, vu que les flûtes ont besoin d'espace et que cet espace doit être comblé par une acoustique.
Oui, mais c'est vraiment fait pour des... C'est vraiment des instruments de rue, donc il y a vraiment une puissance. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de voix fluette. Suivant la puissance de votre orgue, c'est difficile de passer au-dessus, parce qu'on se trouve derrière l'orgue quand on est seul. Si on est à deux, il y en a un qui tourne, l'autre qui est devant, c'est plus facile.
Et jamais de sonorisation? Une petite ampli à micro? Pas pour les orgues, mais pour la chanteuse ou le chanteur.
Souvent, si on se sonorise, il faut sonoriser l'orgue aussi, pour rester dans un équilibre de voix. Il ne faut pas que la voix elle soit non plus beaucoup plus forte que l'orgue qui est en face.
Il y a des réglages sur un amplificateur pour augmenter, pas trop par rapport à la puissance de l'orgue.
Mais souvent, on fait les deux. Enfin, moi, personnellement, je ne sonorise pas. Et j'ai la chance d'avoir une voix un peu puissante.
Ça s'entend. Et pour ce sixième festival, par rapport à la précédente édition, il y aura combien de tourneurs de manivelles?
Alors,
de chanteurs ou chanteuses?
Alors, ils sont 46. Mmh. Ils sont 46 personnes. Ils viennent de Belgique. Ils viennent d'Alsace, du Jura, de l'Isère, Vaucluse, du Var. Enfin, on prend à peu près... Toute la France et puis bon et l'Europe hein, avec les Belges qui viennent de Namur par exemple et d'une ville qui s'appelle Lens aussi, mais Lens en Belgique, pas Lens ça s'écrit pareil. Et ils sont tous costumés, ça c'est important aussi parce qu'on n'offre pas du bonheur en étant habillé comme quand on va faire ses courses au supermarché.
Mais il y a même la tradition de ce côté là
voilà, le costume
et ces costumes
Chacun se costume un peu comme il veut, surtout pas ridicule, hein, ça c'est le leitmotiv, il ne faut pas que ce soit ridicule, mais c'est souvent des costumes
c'est
19e toujours, siècle.
C'est ridicule, c'est l'œil de la personne qui le voit ridicule, on n'est jamais ridicule soi-même.
C'est sûr. Souvent du 19e siècle, et maintenant on est aussi sur des costumes qui sont des années 50 ou un petit peu... j'aime pas tellement le mot gothique, mais un petit peu plus dans le gothique. Voilà.
Donc là, il fait chaud.
Il fait chaud.
Qui dit chaleur dit tissu plus léger, je suppose.
Oui. Je pense que certains vont souffrir. Hein. Donc, on a prévu de les abreuver.
Et vous serez costumé également?
Que le dimanche après-midi.
D'accord. Pour la messe. Quoi.
Voilà. Parce qu'on peut pas organiser et tourner. Donc, quand je suis au festival d'Estougon, je ne tourne pas.
C'est facile à mettre sur place, un festival comme celui-ci?
Facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, ça demande à peu près une année de préparation. C'est des nuits blanches, parce qu'au niveau du financement, c'est toujours beaucoup de réflexion. Il faut quand même savoir que les tourneurs viennent de façon gracieuse. Donc on les reçoit, il faut bien les nourrir.
Les loger.
Voilà, les loger et puis un accueil chaleureux. Mais ils viennent l'animer gratuitement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même.
Et pour votre financement, vous avez des partenaires? Comment ça marche?
Alors, pour le financement, c'est la commune d'Estougon qui m'aide. C'est des dons aussi des habitants d'Estougon. Et moi, je suis chanteuse de rue, tourneuse de manivelle. Et quand je fais une animation... je ne la prends pas pour moi, je la mets dans l'association.
D'accord.
Voilà, pour... on verra l'année prochaine ou dans 2 ans pour élargir un petit peu le... et puis dormir mieux.
Bah, sur, vous êtes sur l'Estoublon, c'est sur la route des lavandes, des lavandins. Est-ce que vous avez fait un petit peu de pub de ce côté-ci, sur le plateau de Valensole?
Ah oui. Alors, au niveau de la communication, on a beaucoup travaillé, que ce soit une communication Internet, que ce soit une communication par affichage, ou, merci Fréquence Mistral de me recevoir, on essaie d'utiliser tous les moyens, tous les médias. Et puis, on est un département qui est très étendu, et c'est vrai que l'affichage est quelque chose de difficile. Si on veut toucher tout le département, c'est un nombre de kilomètres absolument effarant, quoi.
Et des villages comme Moustier, est-ce que les commerçants jouent le jeu pour les affiches?
Pour les affiches, oui. En général, bon, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir de jolies affiches, pas trop grandes. Et puis, en général, les commerçants ne refusent jamais de mettre une affiche. Pour ça, ils sont très, très, on est très bien accueillis.
Alors vous parliez de orgue à hanche et d'orgue à flûte. La différence, vous l'avez dit, nous l'avez donné un petit peu, mais pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, l'orgue à flûte, il y a combien de tuyaux, ça marche comment?
Alors ça dépend du nombre de notes. Si vous avez un orgue à 22, vous avez 22 flûtes. Si c'est un orgue 27, il y a 27 flûtes. Chaque flûte représente une note, sauf quand on a un transpositeur dont on parlait tout à l'heure, et là... on a pour un orgue à 29 flûtes, j'en ai pas de 29, j'en ai 35.
Il n'y a pas de clé pour changer, là?
Alors après, il y a des orgues à registre. Alors c'est pas très... En France, on n'en a pas beaucoup, parce qu'en France, traditionnellement, on est chanteur. Ça, c'est réellement français. Alors qu'en Italie, en Allemagne, par exemple, aux Pays-Bas, ils ont des orgues à registre. Et là, pour moi, ça sera compliqué d'expliquer. Ils ont des tirettes, échange de registres. Il peut y avoir 4 registres, mais c'est surtout de la musique.
Et l'orgue à flûte, t'es un petit peu plus usité actuellement?
Actuellement, c'est l'orgue à flûte qui est premier.
Mais c'est une demande du public ou c'est les musiciens d'eux-mêmes qui préfèrent jouer sur cet instrument-là?
Je pense que les tourneurs de manivelle préfèrent jouer sur l'orgue à flûte parce qu'on a aussi... une évolution sur le son. L'orgue à flûte est plus rond, moins métallique. Et puis, on a une évolution des cartons. Tout à l'heure, on a passé sous les ponts de Paris, qui est donc du traditionnel. Mais aujourd'hui, on trouve des cartons de AC/DC, par exemple, et puis Michael Jackson aussi. Donc, c'est incroyable. C'est bien.
Comme de bien entendu. Michael Jackson, le voici, le voilà. Et une version un petit peu spéciale. D'orgue de barbarie, d'orgue à flûte, vous allez pouvoir écouter le morceau Smooth Criminal sur Fréquence Mistral.
Thank you.
Comme vous avez pu l'entendre, voire l'écouter, il y a des effets d'orgue quand même hein, sur un orgue de Barbarie, même s'il n'y a pas de clavier, c'est glissando. Donc c'est...
Ah oui, mais ça c'est... Bravo à ceux qui font les cartons maintenant. C'est vrai qu'ils ont rajeuni, hein, bien sûr, comme mais... aussi les tourneurs rajeunissent un petit peu, heureusement. Et on trouve donc ces musiques avec plus de dynamique, plus de peps, plus contemporaine. Hein. Et moi, j'adore ça, quoi. Mais il faut quand même avoir les cartons que tout le monde connaît. Hein.
Oui.
Mais, parce qu'on ne chante pas vraiment sur ces cartons-là. Hein. Michael Jackson, c'est un petit peu difficile, mais ça donne vraiment... Une autre dimension à l'orgue.
Sans mauvais genou, ça vous permet, vous, de souffler.
Voilà, tout à fait. Il faut avoir des cartons musicaux.
Donc, il y a la famille des orgues de Barbarie, l'orgue à hanche, l'orgue à flûte. Il y a les orgues du côté d'Italie qui sont un petit peu plus compliqués à jouer. La famille des orgues de Barbarie, elle est large dans tous les sens du terme.
Oui, j'ai oublié de parler aussi des orgues à rouleaux. C'est-à-dire que là, au mieux d'avoir des cartons, on a des rouleaux de papier. L'ennui avec les rouleaux de papier, c'est qu'on a trois chansons sur un rouleau de papier, et si on a envie de chanter la troisième, il faut passer les deux autres avant. L'avantage, c'est que les rouleaux sont à l'intérieur de l'orgue, et que s'il y a du vent, ça ne s'envole pas. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les limonaires.
Les fameux.
Les fameux limonaires. Ces grands orgues qui sont sur des remorques, et qu'on devrait appeler plutôt des orgues de bal, puisque Limonaire, c'est le nom d'une famille. Monsieur et Madame Limonaire.
Tout simplement.
Et c'est resté. C'était des constructeurs, et c'est resté. Donc ces grands orgues, on en avait un qui venait à la fête de la musique à Digne, qui était le royal orgue de Monsieur Quétron, qui habitait Estoulon, mais qui est malheureusement décédé.
Et c'est Limonaire. Contrairement aux orgues de Barbarie, il y avait des automates qui pouvaient être en corrélation voilà. Avec la musique.
Tout à fait. Sur les limonaires, on a des automates. On peut aussi avoir des instruments de musique qui sont liés à l'orgue. Dans ce cas-là, on appelle ça un orchestrion. Donc on peut avoir une guitare, une batterie, un synthé, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc en parallèle avec ces gros orgues, un limonaire, la grosse différence, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de notes et que c'est tellement grand qu'on ne peut pas le tourner à la main. Donc là, c'est motorisé. C'est donc un moteur qui va faire tourner la courroie et qui va actionner les soufflets. Ça, c'est la grande différence.
Et tout comme pour les orgues de Barbarie, ce sont des facteurs d'orgue qui construisent ça ?
Oui.
Les limonaires ?
C'est facteurs d'orgue, tout à fait. Celui qui construit, il n'y en a pas qu'un, mais un qui est bien connu, c'est Monsieur Fournier, qui construit ces gros orgues.
Là, c'est pareil, un orgue de Barbarie, qu'il soit à hanche ou à flûte, par rapport à un limonaire, c'est plus facile à transporter. Ah. Le limonaire, ça prend beaucoup plus de place. Déjà, il faut un camion.
Tout à fait. Il faut au moins une fourgonnette, il faut la remorque. Donc c'est pour ça que sur un festival, on ne va pas en voir beaucoup. Mais si vous venez à Estoublon, il y en a un.
Ah, voilà.
Voilà, et c'est monsieur Antoine Dupéré qui vient avec son orchestrion et qui vient de Ouin. Et Ouin, c'est le plus gros festival d'orgue de Barbarie de France.
Ouin ?
Ouin, à côté, entre Villefranche et Lyon.
Il faut être Ouin pour écouter la musique.
Voilà.
Donc, et ce limonaire, vu que ça prend plus de place, ça fait un petit peu plus de bruit, il est un petit peu excentré.
Je vais dire que c'est la première chose que l'on voit quand on vient au festival. Il est sur la place. Et c'est lui aussi, le samedi soir, qui va faire le bal. Puisque le samedi soir, il y a un repas sur la place avec le spectacle des tourneurs. Chaque tourneur va présenter soit une chanson, soit un sketch. Et on termine par le bal, et c'est au son du limonaire.
Mais tous les autres tourneurs de manivelle pourront se joindre au limonaire pour... Non, c'est...
Non,
là non.
Non, on ne fait pas fonctionner.
Il ne peut pas y avoir de bœuf, entre guillemets.
Non, ce n'est pas possible, parce que les cartons sont différents. C'est-à-dire que pour avoir deux orgues qui jouent ensemble, il faut exactement le même carton. Il faut des orgues qui soient dans la même sonorité. Et il faut aussi des tourneurs qui tournent à la même vitesse.
Et qui démarrent au même moment.
Voilà. Et ça, ce n'est pas facile. Alors maintenant, c'est plus facile parce que vous avez des orgues avec des puces électroniques. Et dans ce cas-là, ils arrivent à jouer à plusieurs parce qu'ils se connectent.
Mais si deux tourneurs de manivelle ne démarrent pas en même temps... Il y en a un, est-ce qu'il peut rattraper l'autre, parce que, à l'oreille, hein, s'il y en a un, vous voyez ce que je veux dire, qui connaissent le morceau, qui petit à petit rattrape l'autre, donc il y a un léger décalage, qui peut être musical, bien entendu, heureusement, et qui rattrape le premier.
Voilà, ben, il faut qu'il tourne la manivelle plus vite, pour faire défiler le carton plus vite. Mais enfin, ça se fait presque jamais.
C'est trop compliqué.
C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment le même orgue, le même carton. Et ça, c'est pas évident.
Donc la seule solution, le limonaire.
C'est le limonaire, tout à fait.
Donc ça sera ce week-end.
Ce week-end, samedi et dimanche.
27 et 28.
27 et 28. Donc le samedi, on commence à 15h dans les rues d'Estoublon jusqu'à 19h30 à peu près. Ensuite, sur la place du village, il y a un repas ouvert à tous. Et puis le spectacle des tourneurs. La fin de la soirée, le bal avec le limonaire. Et le dimanche après-midi, à partir de 15h30, encore une fois dans les rues d'Estoublon, avec le final vers 19h30 sur la place. C'est-à-dire que là, tous les orgues seront réunis et vont se présenter et faire une obade.
Et pour le repas, il y a une réservation, un numéro de téléphone précis ?
Oui, je donne le numéro de téléphone. Oui. Alors pour le repas, c'est au 06 78 26 16 15. Vous demandez Claude.
Donc c'est vous.
C'est moi.
Donc Estoublon, c'est sur la route des lavandes, des lacs. C'est,
voilà.
Pour les personnes, nos auditeurs qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas.
Voilà, c'est sur la route du plateau de Valensole. Donc vous passez par Mézel, vous continuez sur 7 km et vous avez Estoublon.
Merci Claude.
Merci Jean-Marc.